Yuri Philippe.
Présent.
Sylvie Demange.
Présent.
Marc Lefebvre.
Présent.
Hélène Perrin.
Présent.
Je crois que vous avez le pouvoir de William Richard. Hein. C'est exact?
C'est exact.
Jean-Paul Langer, je crois qu'il est absent, il n'a pas donné le pouvoir, manifestement. Donc William Richard n'est pas là. Sébastien Durançois.
Oui, bonjour, présent.
Chantal Clément. Elle n'est pas là. Astrid Tussaud.
Oui, présent.
Édouard Rameau.
Oui, présent, bonsoir.
Bonsoir. Hélène Devilliers, elle est représentée par Édouard Rameau parce qu'elle est à la distribution des masques. Joachim Verdier.
Oui, présent, bonsoir à tous.
Voilà. Christine Mazzi.
Oui, présent.
Pascal Marmiquet.
Présent, bonsoir à tous.
Bonsoir. Aline Priolet n'est pas là, elle est représentée par Marie-Claire Billebord. Nicole Lesage. Elle n'est pas connectée. Jean-Michel Lorca, il est également à la distribution des masques, il est représenté par Damien Godier. Damien Godier est présent.
Il est présent.
Rémi Grand. Il est également représenté mais par Daniel Maire, Marie-Claire Billebord.
Présent.
Daniel Maire.
Présent. Bonsoir à tous.
Claude. Bonsoir. Claude Maréchal.
Oui, présent. Bonsoir à tous.
Michel Bruquier.
Présent.
Maurice Etanus.
Présent.
Catherine Croza.
Présent.
Magali Carbonel.
Présent. Ah.
Jonathan Rodriguez.
Présent, bonsoir à tous.
Abila Charis.
Présent, bonsoir à tous.
Christian Demongin.
Présent.
Présent. Candy Lheureux.
Présent, bonsoir à tous.
Jacques Fromm.
Présent, bonsoir à tous.
Anne-Marie Legras. Elle est représentée par Jacques Fromm parce qu'elle est également en distribution. Pierre Marandon.
Présent. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Pierre. Benoît Boitier. Benoît n'est pas encore parmi nous. Bien, le quorum est donc atteint. Je vous propose de commencer ce conseil. Un mot sur la distribution des masques. On en est à 11 jours de distribution. Je voudrais remercier évidemment... elle est prévue, pardon, sur 11 jours de distribution. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui y ont participé. Beaucoup de membres de l'actuel conseil municipal, du futur conseil municipal. 38 élus au total, 180 bénévoles, 233 agents et 20 militaires du Central 51e régiment d'infanterie de Montmelon qui nous a accompagnés, notamment pour la distribution des masques aux personnes âgées. On est à peu près à 14 000 masques distribués. Les choses se passent plutôt bien. Et de ce point de vue, enfin, les retours que nous avons sont très positifs, les gens sont très satisfaits, apprécient l'organisation, on sent que beaucoup de pharmaciens sont inquiets à cause de ce virus et sont heureux de voir que la distanciation est garantie dans la distribution des masques. Il y a des moments de coups de bourre et puis des moments de grand calme, mais je voudrais en tout cas remercier toutes celles et ceux, je sais que vous en êtes, qui avaient participé à cette distribution de masques. Je voudrais également vous informer que nous avons appris cette semaine que les fonctions des conseillers municipaux nouvellement élus débuteront ce lundi, le lundi 18 mai. C'est un décret qu'il a annoncé au milieu de la semaine, et que le conseil d'installation du nouveau conseil municipal aura lieu samedi prochain, le 23 mai, à 10h, au Palais des Fêtes. C'est un conseil en présentiel, hein, tout simplement parce que c'est une obligation lorsque on doit élire le conseil municipal, on ne peut pas le faire par vidéoconférence ou par audioconférence. Et donc, vous recevrez évidemment une convocation pour le samedi 23 mai à 10h au Palais des Fêtes. Donc, de ce point de vue, on va reprendre une organisation classique, si ce n'est que, comme vous pouvez l'imaginer, on respectera scrupuleusement la distanciation, puisqu'on sera grosso modo une quarantaine dans une salle qui peut contenir 450 ou 500 personnes. On va se sentir peut-être un petit peu isolé, mais on prend les précautions requises par la loi, et je précise que ce conseil aura lieu à huis clos, sera en revanche diffusé sur Internet de manière à ce que nos concitoyens, nos administrés puissent, si ça les intéresse, suivre le déroulement du conseil. Est-ce que vous avez en introduction des questions particulières? Pas de questions particulières, je propose de commencer le conseil par le rapport numéro 1 concernant la nomination de la secrétaire de séance. Vous le savez tous que le plus jeune membre de l'Assemblée remplit cette fonction. Je vous propose de désigner Yuris Philippe comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant, le rapport numéro 2, qui concerne la réduction des redevances d'occupation du domaine public et des loyers pour les associations et acteurs économiques. Je vous propose, mes chers collègues, d'accorder aux associations et acteurs économiques dont les activités ont été fortement impactées par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une réduction des redevances et loyers dues à partir du 1er mars et jusqu'à autorisation de réouverture. Un certain nombre d'activités économiques, je pense aux commerçants, aux restaurateurs, aux quartiers, disposent de terrasses, disposent d'installations extérieures sur lesquelles ils payent des taxes d'occupation du domaine public, c'est tout à fait logique, des droits d'enseigne parfois, des droits de place pour leur terrasse, et évidemment, ces dépenses sont des dépenses annuelles, et depuis le 17 mars, évidemment, ces établissements sont à l'arrêt, pour aucun chiffre d'affaires, et il serait, à mon avis, assez déplacé de leur appliquer un loyer pour cette période. Donc la proposition qui vous est faite vise à leur accorder une réduction de ces redevances à partir du 1er mars, on ne va pas chipoter pour les 15 premiers jours de mars, et ce, jusqu'à l'autorisation pleine et entière de réouverture. Donc, le commerce, c'est déjà repris, mais on sait très bien que les cafés, les restaurants, bars, etc. n'ont pas réouvert, et donc cette exemption, en quelque sorte, s'appliquera sur l'intégralité de la période de confinement qui leur est imposée. Pour votre information, ça représente un accompagnement de l'ordre de 95 000 euros de loyer de droits non perçus. C'est donc une aide substantielle qui, j'en suis sûr, profitera à chacun d'entre eux. Est-ce que vous avez des questions? Ça vient, j'ajoute également que ça vient en atténuation de nos recettes, mais que nous allons avoir, au niveau de l'agglomération notamment, des dépenses importantes pour soutenir ces mêmes acteurs économiques. Puisque nous avons voté une participation au fonds résistance qui a été créé par le conseil régional avec la banque des territoires, les départements et donc les EPCI dont le terme enclos, que nous avons également créé un fonds d'aide communautaire aux entreprises doté de 500 000 euros qui pourrait, si le besoin s'en fait sentir, croître de manière encore importante, et qu'un certain nombre de dossiers commencent à arriver, notamment deux dossiers d'établissements de restauration de notre ville sont arrivés récemment, sont éligibles à ces aides et sollicitent évidemment toutes et tous des aides en matière de trésorerie parce que cette période est caractérisée par un arrêt brutal d'activité, plus aucune ressource de l'autre côté des charges à régler. Et évidemment, nos aides à l'échelle de l'agglomération risquent d'être importantes. Donc, du côté de la ville, on fait des efforts en recettes, c'est-à-dire qu'on va apercevoir un certain nombre de recettes, et côté agglomération, compte tenu du fait que l'agglomération a, en matière d'aide économique, la compétence, l'agglomération viendra en aide à ces établissements. J'ajoute également que j'ai été contacté par les vitrines d'Épernay, qui souhaitent notamment qu'on puisse développer le principe du Sparnachèque. Vous savez que le Sparnachèque, un petit peu comme le chèque vacances, comme le chèque restaurant, ça permet d'offrir des chèques à un certain nombre de personnes qui vont évidemment aller dans les commerces qui prennent le Sparnachek. Donc, sachez que d'ores et déjà, parmi les aides qui vont être versées au personnel qui ont travaillé pendant cette période très délicate et qui parfois étaient quasiment en première ligne, nous allons leur attribuer des primes et une partie de ces primes seront versées en Sparnachek qui leur permettra d'aller dans les commerces locaux et donc d'entretenir un écosystème local dont nous avons évidemment besoin. Et j'ai proposé au président des vitrines d'Épernay une rencontre prochainement pour faire déjà un point sur l'état du commerce local, regarder les manières dont on pourrait venir en aide à ce commerce local et nous trouverons, j'en suis sûr, des solutions, mais ça se fera évidemment lors de cet échange, lors de cette concertation. Y a-t-il des questions sur ce rapport ?
Madame Perrin.
Alors, Madame Perrin, c'est celle que j'ai entendue en premier, elle dit.
Je voulais dire qu'on ne peut que soutenir cette initiative qui conjuguait à celle des autres collectivités locales comme intercommunales ou la région, va aller en complément. La vie économique doit être soutenue et repensée pour enfin avoir des possibilités de produire localement, d'arrêter cette course folle de la mondialisation. Toutefois, il ne faut pas oublier que relancer la consommation passe aussi par un pouvoir d'achat des ménages, afin qu'ils aient les moyens d'acheter. Et ça, enfin, la ville, elle a fait beaucoup d'efforts pour les entreprises, mais pour les particuliers, pas tellement, quoi. Notamment, surtout ce qui concerne l'aide au loyer. Il n'y a aucune aide au loyer pour les particuliers de mise en place suite à la pandémie. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en chômage partiel et connaissent des baisses de revenus qui sont au moins aussi importantes que les baisses de revenus que les entreprises qui connaissent des baisses de revenus. Voilà.
Merci.
On peut constater que notre ville, qui est essentiellement tournée vers le tourisme, là, elle va prendre cher à l'issue de la pandémie. Et qui serait temps aussi de repenser la diversification d'activité.
Merci. D'autres interventions?
Oui, Denis Demange.
Alors, Denis Demange, donnez votre nom, c'est plus simple. Hein. J'ai entendu une voix d'homme parler, mais je ne sais pas qui c'est.
Non, moi, je donne la parole, s'il te plaît.
Oui, je donne la parole d'abord à Denis Demange.
Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'avais une question concernant justement les redevances d'occupation du domaine public, mais vous y avez répondu, monsieur le maire, donc ça concerne également la taxe locale sur la publicité extérieure et les taxes sur les terrasses. Est-ce que vous pourriez m'envoyer la liste détaillée des commerces et associations avec les montants correspondants?
Oui, bien sûr.
Détaillée des 95 000 euros pour
les commerces. Alors parfois, c'est assez minime, hein, mais pour d'autres, c'est des sommes relativement importantes.
D'accord. Donc, si je peux avoir le détail de tout cela. Et puis, effectivement, sur les allées également, vous proposez des bons cadeaux pour, via l'épargne à chèque ou autre, mais achetés par la ville de Pernay pour les ménages et les ménages de Pernay pour refaire vivre les commerçants du centre-ville.
Alors, c'est un point que nous allons évoquer avec le président des vitrines de Pernay, qui rassemble pas seulement les commerces du centre-ville, mais également les commerces d'autres quartiers. Parce qu'effectivement, il faut soutenir la consommation locale. C'est très bien que on a pu citer au cours de cette crise, dans un premier temps, une ruée vers les grandes surfaces, parce que les grandes surfaces avaient les possibilités d'ouvrir, n'avaient pas forcément le commerce traditionnel. Et même si les grandes surfaces étaient avant tout ouvertes pour l'alimentaire, les autres rayons ont largement profité, et parfois même au détriment du commerce local. Les commerçants sont en train de reprendre aujourd'hui, depuis quelques jours, leur activité en la matière. On a également assisté à une ruée vers les produits frais. Ça confirme ce que disait Madame Perrin à l'instant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent que parmi les enseignements de cette crise, il y a une volonté de retourner vers le produit frais, vers les filières de proximité. Donc c'est un sujet qu'il va falloir travailler collectivement pour qu'on puisse développer le secteur d'activité. Il y a du potentiel d'activité. Il y a des acteurs qui ont d'ailleurs connu sous les formes de drive fermier, notamment une croissance extrêmement importante de leurs commandes par Internet, alors qu'ils sont des petits producteurs. C'est donc un signe peut-être encourageant. Je vais tout de suite passer la parole à Benoît qui l'avait demandé.
Oui, merci Franck. Bonsoir à toutes et à tous. Tu évoquais tout à l'heure le fait que il y aurait forcément une reprise du paiement des redevances lorsque les établissements auraient une exploitation pleine et entière. Est-ce que dans ton esprit, cela sous-tend que si d'aventure, je pense notamment aux restaurants, brasseries, si d'aventure le gouvernement imposait des mesures de distanciation sociale qui fassent qu'on ne puisse pas positionner autant de tables sur la voie publique, sur le domaine public, pardon, que traditionnellement. Est-ce qu'il pourrait y avoir, là aussi, non pas une exonération totale, mais au moins une exonération partielle de redevances dans la mesure où forcément le chiffre d'affaires ne serait pas aussi important qu'il peut l'être traditionnellement.
Oui, il y a des pistes à travailler de ce côté-là. Il y a cette solution-là qui consiste effectivement à baisser les droits de place puisque le chiffre d'affaires par mètre carré ne sera pas le même. L'autre solution, c'est de regarder comment on pourrait étendre les terrasses dans certains cas parce que en offrant plus de capacité de terrasse à certains, ils pourront accueillir le même nombre de clients. Tout le monde ne pourra pas parce qu'on connaît tous la configuration de la ville, mais sur certaines places, c'est possible, pour d'autres, ça n'est pas possible. Donc, on va travailler avec les quartiers hôteliers restaurateurs dès qu'ils seront en situation de reprendre leur activité pour voir comment, effectivement, on peut les aider au quotidien. Moins de taxes, ça, c'est une évidence. Plus d'espace, ça peut être une solution alternative. Il y a peut-être encore d'autres formules, mais on sait très bien que pour un certain nombre de professions, les règles de distanciation sociale, qui vont durer un certain temps, parce qu'on est parti sans doute pour moins de 6 à 12 mois, risque de les pénaliser lourdement. Donc je pense que c'est après la concertation, lors de la concertation avec eux, on aura des solutions en la matière, mais il faut effectivement qu'on soit à leur côté, parce que ils n'y sont strictement pour rien. Il se trouve que la crise vient les frapper violemment, brutalement, profondément, remet en question leur modèle économique, et qu'on se doit d'avoir l'agilité, d'avoir la souplesse et la réactivité face à leurs propositions. Donc moi, je vous invite, vous tous, comme conseillers municipaux, si à l'image de Benoît, à l'instant, vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et en tout cas, on va les rencontrer pour examiner avec eux les moyens de leur permettre de rebondir dans une période sacrément difficile. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Je vous propose donc de mettre ce rapport numéro 2 aux voix. Avis contraire? Abstention? Le rapport est donc adopté. Je vous en remercie. Je passe la parole à Magali Carbonel pour le rapport numéro 3 concernant la modification du règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires. Et puis, je demanderai à Magali tout à l'heure, à la fin des rapports, de nous faire un point sur la rentrée, un petit compte-rendu de la reprise scolaire, plus exactement, puisque la reprise scolaire s'est effectuée depuis lundi avec la pré-rentrée et jeudi avec les élèves, et je pense qu'il sera utile que nous puissions porter à la connaissance des uns et des autres les premiers retours sur cette rentrée. Magali, sur le rapport numéro 3.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la ville propose des activités éducatives sur l'ensemble du temps péri et extrascolaire. Le précédent règlement intérieur de ce service nécessitait une petite précision concernant la facturation lorsqu'on met en place un service minimum d'accueil, c'est-à-dire à l'occasion des crèches d'enseignants. Et en effet, les parents doivent, lorsqu'ils préfèrent garder leur enfant à la maison, ils doivent signaler l'absence au service éducation. Et si jamais ils oublient de le faire, ils vont procéder à cette désinscription, eh bien la journée sera facturée. Alors, rien n'est changé, ça existait déjà, seulement ça ne figurait pas dans le règlement intérieur. Ça a donc été ajouté, vous l'avez tout à fait en bas dans le paragraphe de la page 2.
Merci. Voilà. Des questions sur ce rapport?
Oui, Marc. Je voulais savoir, les études dirigées du soir sont toujours payantes au même tarif?
Ah ben oui, rien n'est changé, hein, les tarifs n'ont pas changé. Oui, les tarifs n'ont pas changé.
Non, parce que, il y a des familles en difficulté qui ne mettaient plus leurs enfants parce que les études étaient payantes, mais ça c'est un vieux débat, merci.
Je précise que les personnes qui sont confrontées à des difficultés, que ce soit pour dépayer des études du soir, pour payer une licence dans un club sportif à leur enfant, etc., ont toujours la possibilité, et nous en avons régulièrement, de solliciter le CCAS dans cette hypothèse. Le CCAS analyse leur situation et est en capacité de leur apporter des aides. Donc, il faut bien rappeler cette possibilité. Je n'ai pas souvenir qu'on ait refusé des aides à quelqu'un qui était en difficulté, qui pouvait le démontrer. Madame Perrin.
Oui, alors, bon là, ça a été très succinct la lecture par Madame Carbonel.
Mais je me demandais dans quelle mesure le projet éducatif et pédagogique a-t-il été aménagé pour faire face à la pandémie, parce que là, on reste sur du courant. Or, demain, enfin là, on ne sait pas comment ça va finir, ni s'il y aura toujours le couperet qu'on aurait au-dessus de la tête, puisque d'après les informations qu'on peut entendre aujourd'hui, le virus ne disparaîtrait pas, mais resterait tapis dans un coin. Est-ce que avec cet effet de Damoclès qu'on a autour de la tête, est-ce que la capacité d'accueil a évolué? Est-ce que je vois que c'est toujours les mêmes lieux, donc ça fait un nombre d'enfants assez restreint?
Alors, je vais laisser Magali vous répondre. Ce que je peux vous dire, effectivement, et vous avez raison, cette crise va d'abord durer sur le plan sanitaire. La rapidité de propagation du virus s'est ralentie grâce au confinement. Mais pour autant, on sait très bien qu'avant que tout le monde soit vacciné, il faudra peut-être 12 mois, 18 mois, 24 mois avant que ce soit le cas, on va devoir vivre avec ce virus. Ce qui veut dire que des règles nouvelles vont s'appliquer dans toutes les activités municipales, que ce soit des activités sportives, dans les gymnases, dans les vestiaires, que ce soit dans des activités de type CLSH, de garderie périscolaire, dans les écoles, etc. Ce qui fait que, comme l'ensemble des collectivités, on est un peu dans le brouillard. Alors, on sait tous les 15 jours, tous les 3 semaines, les règles de déconfinement, mais on n'a pas plus de visibilité. Et par exemple, on ne sait absolument pas à quoi ressemblera la rentrée scolaire du mois de septembre. Donc, évidemment, chaque semaine nous apporte son lot d'informations, de précisions. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la régression du virus continue, auquel cas davantage de liberté nous sera consentie pour l'organisation des activités humaines. Mais en tout état de cause, on avance un petit peu au jour le jour, au fur et à mesure des mesures qui sont prises, des ordonnances qui sont prises, et il faut se tenir à cette discipline parce que c'est la condition pour éviter qu'il y ait une résurgence très forte de ce virus. Donc, je pense qu'effectivement, le rapport qui vous a été présenté est un rapport qui concerne l'activité ordinaire des tarifs d'accueil de mineurs. Il va de soi que vient se superposer au rapport qui vous a été présenté, les règles sanitaires qui sont évidemment prioritaires. Magali, tu veux en dire un mot?
Je veux dire que voilà, ça a été présenté de manière très succincte, donc je ne vais pas représenter tout ce règlement intérieur que tout le monde connaît, qui a déjà été voté. Hein, j'ai présenté simplement la petite modification, parce qu'en fait, ça ne figurait pas dans le règlement intérieur, alors que tous les parents savaient qu'il fallait l'appliquer. Voilà, là pour l'instant, c'est fait qu'on accueille, que ce soit à l'école, sont accueillis par les enseignants ou en périscolaire, uniquement les enfants dont les parents veulent qu'ils viennent à l'école. Hein. Mais tous les enfants sont accueillis, de même que dans le périscolaire. Alors, ce que je me proposais de dire tout à l'heure, en ce qui concerne les mercredis, par exemple, eh bien, seulement les enfants qui sont scolarisés en Épernay seront accueillis, hein, à partir de 10h pour les mercredis. Parce qu'on ne veut pas éviter le brassage d'enfants, qu'il y a des enfants différents qui se rencontrent, qui occupent les mêmes. Voilà, mais c'est vrai qu'on va évoluer au jour le jour en fonction de nouvelles consignes qui nous sont données. Hein. C'est vrai qu'on est, on doit travailler au quotidien pour tous les différents dispositifs.
Alors, c'était pas tout à fait ma question. Ma question était de dire que il y a le même dispositif qu'habituellement, qui prévoit un nombre d'enfants, parce qu'il y a des taux d'encadrement qui existent. Hein. Donc, voilà, il y a un nombre d'enfants qui peuvent être potentiellement accueillis, surtout sur l'accueil de loisirs. Et avec cette histoire de pandémie, où il y a la distanciation physique qui rentre en ligne de compte, et où les groupes doivent être restreints, ma question était, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour garantir ce même nombre d'enfants accueillis, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas assez de place, de diversifier les lieux d'accueil.
Mais de toute façon, le problème n'est pas là actuellement, puisque tous les enfants dont les parents veulent qu'ils viennent à l'école et en centre de loisirs, ils peuvent être accueillis. Pour l'instant, le périscolaire n'est pas en difficulté. On accueille les enfants. Hein, donc pour l'instant, la question ne se pose absolument pas.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de période de vacances. C'est une semaine normale. Là, on va quand même faire une période de vacances.
Il va dire, Madame Perrin, que si nous avons demain à accueillir autant d'enfants dans les activités périscolaires, dans les activités de vacances, CLSH, etc., il nous faudra démultiplier les sites, parce qu'on ne pourra pas, compte tenu des règles de distanciation physique, prendre autant d'enfants dans les mêmes sites. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il est fort possible aussi que moins d'enfants viennent vers nous parce que leurs parents, qui sont angoissés, et je respecte parfaitement cette angoisse, se diront, plutôt que de mettre les enfants en garderie, je préfère les garder à la maison ou les confier à mes beaux-parents, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on s'adaptera au nombre d'enfants que nous avons, ce qui impliquera effectivement qu'on ait, au-delà des sites traditionnels, sans doute d'autres sites ouverts. Mais ça, c'est un peu tôt pour le dire. Je pense que on le saura rapidement avec notamment le rythme d'inscription des enfants dans ces accueils collectifs.
Non, mais c'est ce que je voulais savoir, s'il y avait un plan qui était prévu au plan ou quoi.
On y travaille, mais on n'a pas encore toutes les solutions aujourd'hui parce qu'évidemment, on a à tenir compte des travaux qui sont prévus au cours de l'été sur certains sites. Vous voyez, il y a quand même des contraintes qu'on doit prendre en considération, mais il va de soi qu'on va réfléchir à cette question et qu'on tiendra informé les conseils municipaux de décisions qui sont prises. D'autres questions
il y avait ce rapport? Oui, j'en ai d'autres, hein, si je peux continuer à avoir la main. Sur le suivi sanitaire et en cas d'allergie alimentaire, il est dit que s'il y a des intolérances ou des traitements médicaux alimentaires associés à un problème de santé de l'enfant, en cas d'intolérance grave, la ville se réserve le droit de demander aux parents de fournir le panier repas. Et vous nous aviez dit que le prestataire qui avait été choisi pour la cantine était en capacité justement de s'adapter, de répondre à des types de repas sanitaires.
Alors ça, par exemple, alors ça déjà, je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Ce règlement intérieur, il n'est pas nouveau. Hein. La nouveauté, c'est juste le petit ajout qui n'avait pas été notifié. Alors pour répondre quand même à votre question, on a le cas par exemple des allergies aux arachides. Alors là, le prestataire ne peut absolument pas, aucun prestataire ne peut répondre à cette demande parce que c'est trop difficile et trop dangereux. Donc dans ce cas-là, par exemple, les parents doivent apporter un panier repas. Et ils le savent et ils ne le contestent absolument pas. Parce qu'on trouve des particules un petit peu partout. Voilà, je vous donne cet exemple. C'est dans des cas particuliers comme celui-là. Et les parents le savent bien, il n'est absolument pas contesté. Dans le cas où ça serait trop dangereux pour l'enfant. Hein. Le prestataire ne peut pas toujours répondre à ses demandes, c'est très rare, hein. C'est dans des cas vraiment très particuliers.
Oui, le nombre d'allergies alimentaires est extrêmement important et on peut imaginer que le prestataire ne puisse pas avoir de réponse à tout. C'est la raison pour laquelle, à un moment, on passait beaucoup par l'hôpital, parce que justement, l'hôpital avait, lui, cette expérience sur certains repas, sur certains types de régimes, mais aussi face à certaines allergies, l'hôpital était aussi impuissant à répondre à la question.
Moi, je crois que l'exemple de l'allergie aux arachides est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Oui. Là, c'est vraiment impossible.
Oui, parce que là, il peut y avoir des traces, même après la vaccination.
Oui, bien sûr, puis il y a des risques d'étouffement de l'enfant, enfin, il y a des allergies qui sont extrêmement brutales. Il y a des types d'œdèmes qui peuvent être mortels en quelques minutes, et d'où la nécessité, dans ce cas-là, de laisser aux parents, qui d'ailleurs souvent l'exigent, le soin de nourrir eux-mêmes leurs enfants parce qu'ils sont plus rassurés s'ils se sentent eux-mêmes qui ont préparé les repas.
Alors,
sur ce rapport?
Oui, j'en ai encore une.
Allez-y.
Juste en dessous, c'est par rapport aux sanctions. Je suis un peu interloquée par un projet éducatif qui, comme réponse à un mauvais comportement, a en réponse l'exclusion, alors que ça demanderait qu'il y ait un accompagnement et de l'enfant et des parents à ce type de comportement.
Alors, ça se situe où?
Eh bien, il y a suivi sanitaire, règle de savoir vivre ensemble,
Et là, tout en bas de la page, sanctions.
Oui. Okay. Alors, c'est vrai que, j'avoue, voilà, ce règlement, il existe depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous choque dans...
Ce qui me choque, c'est que la réponse à un comportement déviant ou anormal, ou qualifiez-le comme vous le souhaitez, soit sanctionné par une exclusion et qu'il n'y ait pas au préalable un accompagnement de l'enfant et des parents. Alors, on a quand même des structures hein, sur l'internet qui peuvent se venir en appui de l'équipe éducative pour solutionner ce genre de problème sans que la sanction soit l'exclusion.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui, non, mais bien sûr, c'est tout à fait ce qui se passe, hein, en particulier avec le...
Mais c'est l'exclusion et
voilà, de la réussite éducative et tout un accompagnement qui est fait. Quand on arrive vraiment à l'exclusion de l'enfant, c'est après avoir vu l'enfant, bien entendu, mais l'enfant avec les parents de nombreuses fois, et quand au bout du compte, vraiment, il y a grosse questionnation et voire même mise en danger d'autres enfants, voilà, on n'a pas d'autre solution après avoir averti les parents, eh bien, de l'exclure provisoirement, pas définitivement, hein, que de la restauration scolaire ou du...
C'est pas ce qui est marqué dans la
restauration scolaire le soir en particulier, hein. Mais bien sûr, il y a une aide, c'est jamais brutal, c'est pas, voilà, un jour, un enfant s'est mal comporté, et aussitôt il est exclu, ça ne se passe absolument pas comme ça, bien entendu.
J'ajoute que nous avons l'obligation d'avoir ce type de sanctions, y compris des exclusions, parce que si nous n'avions pas ce genre de dispositif et qu'une situation grave venait à dégénérer, la responsabilité de la ville pourrait être engagée par les parents de l'enfant victime. Donc, on se doit d'avoir un règlement assez strict, même si dans l'application de ce règlement, il y a des tas de phases de médiation, nos encadrants, nos animateurs, nos responsables sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Ensuite, des processus de médiation avec les parents peuvent intervenir pour calmer le jeu. Ce n'est vraiment qu'en cas d'extrémité qu'on recourt à l'exclusion. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça se soit souvent produit dans nos activités collectives de mineurs.
C'est dommage que ça ne soit pas marqué.
Franck, Jonathan.
Oui, Jonathan.
Si je peux, je suis en train de lire le règlement et juste au-dessus de sanctions, il est indiqué qu'en cas de non-respect des consignes, des mesures disciplinaires seront prises et les responsables légaux informés. Ça veut dire qu'il y a bien un préalable avant une exclusion. Il y a bien un dialogue qui est fait avec les parents ou les responsables légaux.
Oui, ils sont informés. On ne dit pas qu'on met...
dans la réalité, il y a cette équipe éducative qui intervient.
Et pour reprendre par rapport à votre crainte pour inquiéter des enfants, les mercredis, par exemple, les effectifs prévisionnels, pour l'instant, c'est uniquement 29 enfants dès les premières et 15 enfants en maternelle. Vous voyez, pour l'instant, on n'en est pas à ouvrir d'autres structures. Voilà ce que je voulais dire par rapport
bien, sur ce rapport, je vous propose de voter. Avis contraire. Abstention.
Moi, je m'abstiens.
Une abstention. Vous abstenez également pour Monsieur Richard?
Oui.
Donc, deux abstentions. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 4, Magali.
Alors, donc, il s'agit des tarifs des accueils de loisirs. Donc, je propose donc d'adopter les nouveaux tarifs des accueils de loisirs de mineurs. Ces tarifs qui ne vont pas augmenter en tenant compte de la nouvelle grille tarifaire de la CAF. Hein, voilà, c'est uniquement parce que la CAF a modifié sa grille tarifaire que voilà, qu'on est obligé de refaire cette délibération, de refaire ces tarifs, mais qui n'ont absolument pas augmenté.
Merci.
Voilà. Et puis, d'autre part, ont été ajoutés les tarifs pour la demi-journée avec repas, hein, qui ne figuraient pas dans la délibération du mois d'octobre. Voilà, donc, elle figure cette fois dans cette délibération.
Oui.
Madame Perrin, la MSA, elle a changé ses grilles aussi ou c'est que la CAF?
C'est la CAF.
C'est la CAF uniquement.
Oui, mais uniquement, oui. c'est vraiment, voilà, nous, on n'a vraiment pas là.
Et genre, une petite question, si vous le permettez. La journée avec repas pour les 2-6 ans est plus chère que la journée avec repas pour les plus grands, pour les 6-13. Et le repas, enfin, il coûte pas plus cher pour les petits que pour les grands.
Alors, les repas pour
la journée avec repas.
Le taux d'encadrement est plus important.
Oui, c'est l'encadrement, à mon avis, qui change. Il y a plus d'encadrement pour des enfants de 2 à.
De l'encadrement. Voilà.
Oui. D'autres questions? Pas de questions? Avis contraire sur ce rapport? Abstention? À l'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 5, Pierre Marandon.
Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à tout le monde. Avant de vous inviter à adopter la délibération relative à la grille tarifaire du passeport vacances 2020, je souhaite vous apporter quelques informations dans l'attente des directives que nous communiquerons début juin, la DDCSPP. Celle-ci précisera en effet les modalités d'organisation du centre des centres de loisirs, de capacité d'accueil et de choix des activités offertes aux jeunes pharmaciens de 11 à 16 ans intéressés par le dispositif. Dans tous les cas de figure, nos équipes seront prêtes à répondre à l'attente des jeunes ados et à celle de leurs parents afin de leur offrir en toute sécurité des activités, un séjour agréable avec un programme d'animation reconsidéré, adapté et bien entendu conforme à la réglementation, une réglementation susceptible, comme vous le savez, d'évoluer avant le début des vacances d'été. Concernant l'encadrement, les réunions de participants, préparation, concertation ont déjà eu lieu avec les équipes et les directeurs pressentis. Donc, dès que nous aurons le feu vert des instances responsables, des services jeunesse pourra procéder aux inscriptions sur rendez-vous à la ferme de l'hôpital, qui d'ailleurs sera le site référent du passeport vacances du 6 juillet au 21 août. Je précise qu'il conviendra d'inscrire au minimum pour 3 journées par semaine. J'ajoute enfin qu'une carte nouvelle hebdomadaire sera remise à chaque jeune qui en fera la demande. Concernant la grille tarifaire journalière, prenant en compte les accords avec la CAF, elle reste identique à celle votée l'an dernier. Nous invitons donc à l'approuver, non pas exactement telle qu'elle a été proposée dans le rapport en votre possession, puisqu'il comporte des erreurs, je prie de bien vouloir m'en excuser. Nous en voulons bien reconsidérer les 6 tranches de la CAF, comme vient de le dire Magali d'ailleurs, à l'identique donc avec la grille des accueils collectifs de mineurs, à savoir de 0 à 386 euros, 387 à 447, 448 à 511, etc. Sachant bien sûr que la somme à payer reste la même. Et j'ajoute qu'il y a possibilité d'accueil sur le même tarif de 10h à midi avec petit déjeuner offert aux enfants. Voilà. En excusant de vouloir vous excuser pour les erreurs figurant sur la délibération.
Donc, si j'ai bien compris, on substitue au tableau qui nous a été présenté, le tableau du rapport précédent.
Bien sûr, c'est exactement la même chose. Je m'en suis rendu compte en réalisant toutes les délibérations. Je me suis dit, c'est bizarre, on n'a pas les deux mêmes tableaux. J'ai appelé le service jeunesse, j'ai appelé le service éducation, et bien entendu, le tableau qui convient d'adopter est celui mis à jour par la CAF, et donc qui est le même que celui pour les accueils collectifs de l'éleveur que vient de présenter Magali. Mais ça ne change rien quant au taux, si tu veux, à 1 euro, 1,25 euro, 1,50 euro, 1,75 euro, ça ne change rien quant au coût journalier.
D'accord, merci. Des questions sur ce rapport? Pas de questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 6, Christian de Mongin.
Merci Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Pernay organise tout au long de l'année de nombreuses animations culturelles et spectacles pour parler des fêtes dans l'espace public. Et il est donc nécessaire d'être titulaire de licence d'entrepreneur et de déléguer quelqu'un à cette licence. Jusqu'à présent, c'était le responsable du palais des fêtes, mais il a fait valoir ses droits à la retraite. Et donc, pour désigner un nouveau titulaire, je vous propose d'abord d'autoriser Monsieur le maire à constituer la demande de licence et de désigner le directeur des affaires culturelles pour l'attribution et la détention des licences d'entrepreneurs de spectacles. Voilà.
Merci Christian. On peut dire qu'effectivement la responsable du comité des fêtes c'était Michel Gélin, qui nous a quitté après une longue année, vie d'activité professionnelle bien remplie et à la satisfaction de tous. Il a bien gagné ses droits à la retraite et c'est donc Sébastien Orzeski qui est loin de la retraite, lui, il va prendre la succession. Les choses pourront encore évoluer ensuite, mais pour l'instant, en tout cas, c'est Sébastien Orzeski qui prendra le poste de titulaire de cette licence. Des questions sur ce rapport?
Hélène Perrin.
Allez-y.
Vous avez noté dans le rapport qu'il y a une formation dédiée à cette licence et qui l'a mis en place?
Sébastien a suivi les stages de formation et donc il a déjà obtenu tout ce qu'il fallait. Voilà.
C'était pas ma question. Ma question était de savoir qui est habilité à faire ces formations, à les mettre en place. C'est CNFPT ou c'est qui? Je sais pas.
J'avoue ne pas savoir.
Voilà.
Les formations ont été faites près des DRAG, près des techniques de sécurité, de gestion des entreprises, pas des entreprises, des lieux, etc.
Ah, oui.
Ce sont des formations professionnelles, bien évidemment.
Non, mais la précision, madame.
J'ai bien compris, mais j'aurais juste voulu savoir qui était dépositaire de ce droit à former les gens.
Si on ne le sait pas, et moi non plus, donc on vous fera parvenir l'information par voie écrite.
Voilà, je vous remercie.
Ok, je vous en prie. Sur ce rapport, pas d'opposition? Pas d'abstention? Le rapport est donc adopté. Nous arrivons au rapport numéro 7, Jacques Fromm.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, au regard des mesures de confinement prises le 17 mars dernier par le gouvernement contre la propagation du coronavirus, la ville d'Épernay a instauré la gratuité sur l'ensemble du stationnement payant. Celle-ci sera maintenue jusqu'au 17 mai 2020 inclus. Ainsi, je vous propose d'adopter les modalités de report correspondant à la période de confinement telles qu'elles sont détaillées dans le rapport en votre possession. Les modalités opérationnelles diffèrent selon le type d'abonnement et les catégories d'usagers, mais permettent à tous de bénéficier des jours de stationnement payés mais non consommés et d'avoir ainsi une nouvelle date de fin de l'abonnement. Nous pourrons ainsi mettre en application la restauration du stationnement payant le 18 mai 2020 prochain. Je voulais vous donner à titre d'exemple, pour un abonnement par exemple sur le parking centre-ville, les abonnés ont reçu un mail les informant du rétablissement du stationnement payant. Et ils ont également, dans ce mail, trouvé la nouvelle date de fin de la validité de leur abonnement. Ils n'ont ainsi pas de démarche particulière à effectuer auprès du service stationnement. Voici par exemple un cas. Le cas est même pour les abonnements de résidents, où les abonnés ont déjà reçu leur nouvelle carte de résident prorogée dans leur boîte aux lettres.
Merci. Il y a peut-être des questions sur ce rapport?
Oui, Hélène Perrin.
Oui, Sylvie Demange.
Alors, madame Perrin et Sylvie Demange, je suis.
Donc, moi, je trouve normal de différer comme ça les restants que les gens n'ont pas consommés. Je trouve dommage que le bus gratuit s'est arrêté avant la date du parking gratuit. Le temps du confinement, ça nous a permis de faire reculer fortement la pollution au niveau local comme au niveau mondial. Et il serait dommageable de ne pas penser à comment réduire la voiture et ses désagréments. D'autre part, les gens qui ont des abonnements pour le bus se sont aussi retrouvés devant le fait accompli d'avoir un abonnement qui n'a pas été usé pendant le temps de la gratuité. Est-ce que vous avez les mêmes dispositions pour ceux qui avaient des cartes d'abonnement pour le bus?
Alors, c'est à la communauté d'agglomération de statuer sur le sujet. Je pense qu'elle sera saisie de la question très prochainement.
parce que c'est elle qui est autorité organisatrice de la mobilité à l'échelle du territoire, mais nous nous étions déjà mis d'accord avec l'exploitant et nous avons déjà répondu verbalement et par les réseaux sociaux à tous les abonnés qui se sont inquiétés, qu'évidemment leur abonnement serait prolongé dans la mesure où pour certains d'entre eux ils ont été confinés, donc dans l'incapacité de prendre le bus n'allant pas travailler. Hein, donc la même règle sera déclinée, mais c'est une décision sera faite par l'éternel à nous. Madame Demange.
Merci Monsieur le maire. Oui, c'est une belle initiative qui, je pense, a été appréciée par les pharmacies en général. Je trouve que cette délibération va à l'encontre de celle qui a été évoquée tout à l'heure en tout début de conseil, avec l'accompagnement et l'appui de la ville pour aider au mieux les commerçants. C'est très agréable de se rendre en centre-ville et de ne pas payer le stationnement, de ne pas être pressé à cause de l'horodateur, ce qui permet de rester plus longtemps en centre-ville. Il n'y a pas de grosse affluence depuis ce lundi. Les gens sont encore frileux à se rendre dans les commerces, au grand désarroi des commerçants d'ailleurs. Je pense que de laisser le stationnement gratuit ne peut qu'aider les commerçants et les acheteurs potentiels. Tout du moins, au moins laisser jusqu'à la fin du mois de mai la gratuité, ou juste sur le parking fermé, ou au moins la gratuité le samedi après-midi. Donc je voterai contre cette délibération.
Alors, je vous réponds sur le sujet. On a constaté depuis lundi dernier, et la police municipale nous a relayé également cette information, on avait une pression croissante sur la capacité de stationnement, sans pour autant avoir énormément de monde en ville. Pourquoi ? Parce que le stationnement gratuit fait que les habitants du centre-ville, les commerçants, leurs employés de commerce ont tendance à se stationner en centre-ville, ce qui est pratique pour eux, mais ce qui pénalise le commerce d'une manière générale, parce que du coup les chalands n'ont plus accès à ces places. Et c'était assez spectaculaire ce matin et hier, j'étais moi-même en centre-ville, j'ai pu observer qu'effectivement il y avait quasiment plus de places vides comparé à ce qu'on a vécu il y a encore 8-10 jours en arrière, et que pour autant il y avait encore assez peu de monde sur les comptoirs, qui est la preuve que du coup certaines personnes qui d'habitude allaient dans les parkings et où ils avaient des abonnements, se sont dit par confort personnel, finalement je me garerai près de mon bureau, près de mon activité, comme ça m'évite de marcher beaucoup, mais en même temps ça pénalise le centre-ville. Donc c'est pas un hasard si dans toutes les villes le stationnement reprend, c'est pas un acte anti-commercial, c'est au contraire un acte trop commercial, parce que le centre-ville et le commerce centre-ville ne peut survivre que s'il a de la capacité de stationnement, que s'il y a de la rotation dans le stationnement. Les véhicules ventouses tuent le commerce du centre-ville, et c'est pour éviter cet effet de véhicules ventouses qu'on a remis le stationnement payant, sachant que ça va servir au commerce, puisque on sait très bien qu'à partir du moment où un stationnement est payant, le nombre de véhicules par place sur une journée est multiplié par 7 ou 8 par rapport au cas où nous avons des véhicules qui stationnent toute la journée pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont aucune pression qui les invite à laisser la place à d'autres. Y a-t-il d'autres questions?
Je voulais simplement ajouter un petit propos qu'effectivement le stationnement en zone rouge était saturé alors qu'on n'avait aucune voiture de stationner sur l'esplanade Charles de Gaulle par exemple. Et de nombreuses voitures sont restées pratiquement un mois, si ce n'est pas deux mois, stationnées aux mêmes places dans certaines rues. Il pose un problème et empêchait la rotation dès la reprise du commerce.
Oui. C'est une vraie difficulté. Il y a eu pas mal d'articles sur le sujet dans la presse spécialisée ces derniers jours, parce qu'effectivement, c'était présenté par les associations de commerçants comme un obstacle à la reprise d'activité, parce que les véhicules étaient là et avaient pris la poussière. Donc les gens ont conscience que le stationnement était gratuit, c'était stationné là sans bouger la voiture, qui évidemment a été une inquiétude pour les commerçants reprenant leur activité. Pas d'autres questions sur le sujet?
Franck, je vais simplement dire une remarque. Je suis un peu surpris de la réponse du questionnement de Mme Demange, parce que ce matin encore, j'ai été interpellé par deux commerçants du centre-ville qui me demandaient justement quand le stationnement était réglementé et être mis en place. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une saturation complète du stationnement et que les commerçants, les gens qui veulent rentrer dans les commerces ne peuvent plus stationner.
parce qu'il y a un stationnement en tous en permanence, et qu'effectivement, ça devient complètement anachronique d'avoir des gens qui stationnent en permanence et qui empêchent le commerce de marcher. Alors, je pense que Madame Demange ne doit pas fréquenter beaucoup le commerce pharmacien, parce que je crois que si effectivement les commerçants m'ont été appelés sur le sujet, il y en a d'autres qui se faisaient par le porte-parole du reste, d'autres commerçants qui remarquent la même chose.
Bien, pas d'autres interventions?
Si, monsieur Marc, je dois juste répondre.
Allez-y.
Donc si je fréquente les magasins de pharmacien et même les commerçants, monsieur le maire vient d'indiquer qu'il y a certains commerçants qui ne veulent pas le jour. Si les commerçants et les salariés des commerces se gardent effectivement devant leur boutique, c'est pas des gestes très civiques de leur part. Après, rien n'empêche d'ouvrir le parking Bouchard, par exemple, et de mettre en gratuité 2 heures au lieu d'une heure pour permettre la gratuité plus longtemps, ou au moins la gratuité samedi.
Alors, actuellement, le parking du Jard est ouvert et gratuit, illimité. Pour autant, effectivement, les gens sont venus le garer en centre-ville. C'est le témoignage, c'est un témoignage assez accablant. Ça prouve que les gens prennent leurs très vieilles habitudes. C'est-à-dire que si c'est gratuit et c'est prêt, je vais là où je dois aller travailler ou là où je dois aller faire un acte de commerce. Et je ne pense pas une seconde aux autres commerçants du secteur qui souffrent de cette présence permanente des véhicules. Donc, je pense que tout ça va se réguler très vite. En tout cas, vous avez bien compris que la remise en stationnement payant n'avait pas pour objectif de sanctionner quiconque, mais au contraire de réenclencher un phénomène de rotation des véhicules qui est, encore une fois, indispensable à la survie du commerce. Il n'y a pas de commerce viable dans aucune ville de France si on n'a pas un système efficace qui assure la rotation des véhicules, sinon, évidemment, ça limite l'accès au centre-ville au bon nombre de chalands et ça devient vite une catastrophe. Sur ce rapport, je vous propose de voter. Avis contraire. Abstention.
Une. Pas deux. Une demande.
C'est vous, Madame Demange, d'accord. Une abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 8. Je vais t'en redonner.
Oui. Monsieur le maire, Hélène Perrin et William Richard ont abstention.
Ah, d'accord. Okay. Donc, 3 abstentions. Je n'avais pas entendu. Jonathan. Rapport numéro 8.
Oui, merci monsieur le maire. Je présente la délibération pour modifier le règlement du budget participatif qui évolue avec ces circonstances. Franck Leroy et quelques-uns on a jugé que cette période de confinement, cette façon de vivre différemment sa ville, en étant confiné pendant 2 mois, en ayant vécu sa ville différemment, allait probablement, certainement, donner des idées aux pharmaciens qui ont pu découvrir leur quartier, qui ont pu apprécier la vie différemment et la voir d'un autre regard. Donc c'est pour ça qu'on a jugé que augmenter, doubler cette somme pour donner 100 000 euros supplémentaires à trouver des idées, trouver des projets pour donner à notre cadre de vie ou trouver des idées pour la ville pourrait être une opportunité pour les pharmaciens qui auront dans la ville plus d'idées. Et aussi, cette idée, c'est d'accompagner ce mouvement et de privilégier les artistes locaux, les entreprises locales, pour que l'argent qui soit investi reste dans l'économie de proximité et dans l'emploi local. Donc on augmente exceptionnellement cette année ce budget de 100 000 euros, donc il sera de 200 000 euros, et on accompagne aussi l'augmentation des projets maximum qui étaient avant à 30 000 euros, on augmente à 50 000 pour avoir des projets qui seront peut-être d'autres envergure en permettant un budget supplémentaire. Voilà. Les modifications apportées par ce budget pour cette année 2020.
Merci. Des questions sur ce rapport? Pas de questions. Avis contraire? Abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste donc le rapport numéro 9 concernant les décisions prises par le maire en vertu de l'article 2122. Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues?
Madame Perrin.
Allez-y, Madame Perrin.
J'ai remarqué que dans le compte-rendu des décisions prises, il y avait pas mal de subventions versées à diverses associations ou organismes pour les spectacles qui devraient commencer fin juin et se tenir cet été. dans la période où on ne sait pas que demain sera fait et quel droit on disposera à se réunir et dans quelles conditions, est-ce que c'est pas prématuré?
Alors, ça peut paraître prématuré parce qu'effectivement le contexte est particulier. Pour autant, dans les conventions qui ont été passées avec les artistes dont il est question, je pense que c'est notamment dans le rapport numéro 10, il est prévu des possibilités de report. C'est-à-dire que on a d'abord le souci de ne pas mettre en difficulté toutes les troupes artistiques qui viennent d'habitude ou les orchestres qui viennent, parce qu'évidemment, si on supprime la totalité de leur activité, certains d'entre eux ne survivront pas à la crise. Mais il est prévu dans les conventions que si effectivement ils ne pouvaient assumer leur prestation en juin, juillet ou août, des possibilités de report soient organisées, c'est-à-dire ou à l'automne ou l'année prochaine. Donc tout ça est prévu dans les contrats. Donc c'est la raison pour laquelle on a maintenu les participations de manière, un, à ne pas les mettre en difficulté, mais deux, on s'est assuré qu'effectivement, si pour une raison extérieure, en l'occurrence un cas de force majeure, la manifestation n'avait pas lieu, elle puisse être reproduite un peu plus tard avec un artiste, de sorte que tout le monde est gagnant.
D'accord.
D'autres questions? Marc Lefebvre. Oui, donc c'est sur la numéro 13. Oui, donc le financement à l'école privée de 200 euros. Bon, 200 euros, c'est pas grand-chose, vous me direz, mais vous financez le GEC, à l'école privée en général, pour 250 000 euros ou même un peu plus. Alors, je vois pas pourquoi, entre-temps, ils demandent une autre subvention et ils pourraient prendre sur leurs 250 000 euros.
On va pas réveiller la guerre scolaire.
Comment?
On va pas réveiller la guerre scolaire, Marc.
Non, mais je veux dire, c'est la première fois qu'il y a une subvention attribuée comme ça à l'école privée en dehors de l'OGEC.
Oui, mais je pense que c'est une subvention qui est fléchée, en l'occurrence, pour l'achat de clés USB. J'avoue que je ne connais pas la finalité
avec
de ces clés USB.
000 euros, je crois que vous pouvez acheter des clés USB.
Bon.
Voilà.
Une autre intervention. Merci. D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous avons épuisé l'ordre du jour du Conseil, mais je vais demander peut-être à Magali de nous faire un petit rapport concernant la reprise des cours qui a eu lieu hier matin. J'étais présent moi-même à l'école Bachelin, puis à l'école Saint-Onge. Magali, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette reprise des cours?
Voilà, reprise des cours, c'est vrai qu'elle était très attendue par certaines familles, avec inquiétude pour d'autres, et on peut dire qu'elle s'est bien passée, que les parents inquiets sont rassurés. Il faut dire qu'elle avait été préparée bien, tout a été bien anticipé en amont par l'éducation nationale et la collectivité. Alors, je redis rapidement qu'il y avait eu un questionnaire envoyé aux familles pour recenser le nombre d'enfants qui allaient venir, et 500 familles avait exprimé le souhait de scolariser leur enfant à la reprise de l'école. La date de la journée a été définie en lien avec l'inspecteur de l'éducation. Les autres déjeuners étant réservés à la pré-rentrée de l'école. Alors, on vous rappelle que les directeurs d'école et les services municipaux ont préparé les écoles en amont de la reprise. Nos agents d'entretien ont nettoyé les écoles qui étaient fermées depuis le début du confinement, et désinfecter les écoles qui étaient occupées par l'accueil des enfants des personnels prioritaires, à Bachelin et Agriculture. Des gels hydroalcooliques, savons, etc. ont été livrés dans chaque école. Les agents des services techniques de la ville et du service de l'éducation se sont rendus sur chaque site pour aider les directeurs, pour mettre en place les salles de classe, les retraits des mobiliers, les signalétiques. Voilà, ils ont été aidés par nos agents. Alors, la capacité d'accueil des salles de classe aussi a été très, très bien étudiée, école par école, classe par classe, salle de classe par salle de classe, puisque le protocole sanitaire préconise un effectif maximum de 15 enfants, mais compte tenu de la configuration de la taille des classes, ce n'était pas plus court pour toutes les salles de classe. Donc, quelquefois, on n'a pu accueillir que 10 enfants.
Et chaque fois, donc, l'objectif était d'assurer le respect des distanciations et du protocole sanitaire. Alors ainsi, donc, c'est-à-dire rentrée, 28,4% des effectifs globaux ont repris le chemin de l'école, je dis, donc sans distinction de niveau. Hein, tous les niveaux ont été accueillis. Pour la majorité des écoles, l'organisation retenue par les directeurs d'école était un accueil en alternance. Alors, certains n'ont pas retenu cette solution parce que la configuration des locaux ne permettait pas d'accueillir, permettait d'accueillir l'ensemble des élèves, comme par exemple l'école Bachelin, dans laquelle il y a beaucoup de femmes. Ou bien parce que les effectifs étaient vraiment très minimes, comme à Longin et un type de cette sorte. Alors, les accueils périscolaires sont également assurés toujours avec les horaires habituels, mais en s'adaptant, bien sûr, ce qui était nécessaire, aux accueils et départs échelonnés. Tout ça pour éviter le brassage d'enfants. L'accueil des enfants s'effectue dans leur classe, à leur classe, exactement la même classe que celle qu'ils occupent sur le temps scolaire, c'est vraiment l'idéal. Mais lorsque c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'animateur suffisant, par exemple, il y a énormément de salles occupées, cet accueil donc, est organisé dans des salles qui permettent la distanciation et non pas le brassage des enfants. Ou bien, quand il fait beau, on est largement en extérieur, si le temps le permet. Alors, nous, on assure aussi, bien sûr, la restauration. Hein, on fait toujours par l'intermédiaire de la restauration, notre prestataire habituel. Alors, là aussi, les salles ont été aménagées pour permettre une distance d'au moins 1 mètre entre les enfants. Et nos agents sont équipés de boue, de gants, de charlotte et de masques. Les tables et les chaises sont désinfectées avant et entre chaque service. Les deux services ont été conservés malgré les effectifs qui sont réduits, hein, mais dans la mesure où les enfants sont moins les uns debout, les uns côté des autres. Voilà, donc on peut préciser que les équipes d'entretien sont présentes tout l'ensemble de la journée hein, pour intervenir, pour nettoyer très régulièrement, pour désinfecter régulièrement. Alors, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, donc les accueils du mercredi, ils vont commencer à partir du 20 mai. Pour éviter toujours le mélange des enfants, seuls seront acceptés les enfants qui sont scolarisés à Épernay depuis le 14 mai. Ceux-là seulement pourront être accueillis. Alors, les bâtiments, les sites qui ont été retenus, c'est l'école Vigne Blanche pour l'élémentaire et la maison des parents et de l'enfant pour les maternelles. Et ils ont été retenus donc en raison de leur espace qui permet aux enfants, voilà, de ne pas le brassage des enfants. Et donc, chaque salle sera dédiée à une école. Chaque école se retrouvera toujours avec les mêmes enfants. Voilà, donc, ce que je veux dire, on peut rappeler que ce soit pour les temps scolaires ou périscolaires, l'ensemble de nos agents sont mobilisés pour la plupart sur site et pour garantir la sécurité sanitaire et aussi affective des enfants. Voilà ce qu'on peut dire sur ce référent qui globalement est classique.
Merci Magali. Pour avoir participé à cette reprise, j'ai pu effectivement m'entretenir avec deux directeurs d'école, avec quelques enseignants et quelques ATSEM qui étaient bon, très prudents, très précautionneux dans l'organisation de l'école et qui étaient plutôt satisfaits de la manière dont ça reprend. Évidemment, tout le monde a voulu privilégier la qualité sur la quantité. Je voudrais saluer le travail des équipes de l'éducation nationale, des équipes de la ville qui ont vraiment coopéré de manière intelligente et constructive pour permettre cette rentrée, qui est une reprise évidemment partielle. Hein. Les cours en distanciel sont maintenus pour un certain nombre d'enfants. Un travail est fait auprès des familles les plus en difficulté pour essayer de les convaincre de ramener leurs enfants vers l'école, mais c'est pas gagné partout. Mais en tout cas, c'est mieux que d'avoir des enfants qui soient tous chez eux, confinés avec les difficultés qu'on sait. Est-ce qu'il y a des questions dans cette rentrée scolaire? Pas de questions?
Bien, bah écoutez, le conseil est donc terminé. C'est le dernier conseil du mandat, cette fois c'est une certitude, puisque lundi, les nouveaux conseillers médicaux vont entrer en fonction, même s'ils ne seront installés officiellement que samedi prochain, samedi 23. Permettez-moi de vous remercier toutes et tous pour le travail que vous avez fait tout au long de ce mandat et parfois d'autres mandats précédents pour certains d'entre vous. J'ai toujours apprécié votre investissement personnel, d'ailleurs, quels que soient les rangs dans lesquels vous avez siégé, je pense que vous avez tous donné le meilleur de vous-même à la fois au service des pharmaciens, au service de vos convictions, et il me semble normal de vous rendre cet hommage et vous remercier pour le travail qui a été accompli. La fin du mandat s'est terminée dans des conditions un peu particulières parce que cette crise du confinement est une première pour nous tous. Je ne sais pas combien de temps elle va durer et combien de temps ce virus va nous obliger à repenser nos modes de fonctionnement. On fera en tout cas au mieux, je peux vous le garantir, et puis on vous tiendra informé évidemment des décisions à venir, puisque ça peut influer sur l'activité économique, ça c'est une certitude, sur l'activité sociale, éducative, et ça c'est évidemment un sujet d'inquiétude pour nous tous, parce que il faut, dans un temps extrêmement rapide, repenser nos organisations, repenser la manière dont on rend le service public, en ayant le soin de n'exclure personne, ce qui n'est évidemment pas évident quand on a réglé et intégré des règles de distanciation physique, notamment. Voilà, merci à tous, très bon week-end, et merci encore pour votre investissement tout au long de ce mandat. À très bientôt.